Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne. Lors de cette 8e série d'études consacrée au livre de l'Exode, nous abordons le chapitre 20. Il s'agit de l'un des chapitres les plus importants de toute la Bible, car il contient les 10 commandements. La dernière fois, Claude a fait une introduction pour expliquer ces commandements en réfléchissant à leur importance à la lumière de l'enseignement apporté dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, nous allons étudier ces commandements plus en détail. Didier est de retour parmi nous pour nous aider. Didier, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous.
Didier, nous allons, je le suppose, commencer par le premier commandement. De quoi s'agit-il?
Oui, c'est exact Yann, mais nous ajouterons aussi le deuxième commandement, car en fait, les deux sont liés. Écoutons avant d'aller plus loin la lecture du livre de l'Exode, au chapitre 20, les 5 premiers versets.
Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. »
Merci Magali. Didier, le message donné est clair. Il s'agit là d'une interdiction à pratiquer l'idolâtrie.
Oui, en bref, ce commandement nous rappelle qu'il n'existe qu'un seul vrai Dieu. Nous lui appartenons tous du fait qu'il nous a créés. Son peuple lui appartient parce qu'il l'a sauvé. Dieu seul est digne de recevoir notre adoration. Dieu seul est digne de notre confiance. Et Dieu seul est digne de notre obéissance.
Je pense qu'il serait instructif de rappeler le contexte dans lequel ce commandement a été donné.
Tout à fait, Yann. Quelques semaines auparavant, Dieu a délivré son peuple de l'esclavage et de l'oppression en Égypte. En Égypte, l'idolâtrie se pratiquait partout, ainsi que la divination et la sorcellerie. Les Égyptiens révéraient de nombreux dieux, et il ne serait pas étonnant que le peuple d'Israël ait été fortement influencé par cette ambiance idolâtre. Cependant, tout au long des événements rapportés dans le livre de l'Exode, nous constatons que le seul vrai Dieu révèle sa puissance et sa gloire, sa bonté et sa fidélité. En effet, les fléaux envoyés par Dieu sur le pays d'Égypte prouvent qu'il est plus fort que les idoles égyptiennes, qui n'ont pas pu protéger leur pays. Les soi-disant dieux d'Égypte n'avaient aucun pouvoir devant la puissance souveraine de Dieu. Le message du livre de l'Exode est celui-ci. Il n'existe qu'un seul vrai Dieu, qu'un seul Créateur et qu'un seul Sauveur. Il demeure au-dessus de toute autre puissance, qu'elle soit spirituelle ou terrestre. Ce seul vrai Dieu est incomparable dans sa puissance, sa gloire et sa beauté. Il est donc digne de notre adoration et de notre confiance, de notre obéissance, de notre amour et de notre service. Les idoles, les esprits et tout autre soi-disant Dieu ne sont pas dignes, car ils sont le produit de Satan, le grand esprit menteur et destructeur. Le premier commandement nous enjoint à ne pas avoir d'autre Dieu dans notre vie, si ce n'est l'Éternel, le seul vrai Dieu, qui s'est révélé au peuple d'Israël et qui plus tard s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. De même, le deuxième commandement nous demande vivement de ne rien sculpter, ni de fabriquer la représentation d'un dieu ou d'un esprit, ou même du seul vrai Dieu.
Pourquoi ?
Parce que ces objets peuvent facilement nous distraire du vrai Dieu et le remplacer. La tentation existe de rendre un culte à ces objets et idoles au lieu de rendre un culte à Dieu. La tentation existe de penser que ces objets ont en eux une puissance spirituelle ou magique, et nous pouvons mettre notre foi en eux au lieu de mettre notre confiance en Dieu, qui, seul, est bon et puissant. Cependant, si parfois ces objets ou ces idoles semblent agir avec une certaine puissance, c'est le malin qui se manifeste en eux, c'est Satan, qui cherche à nous tromper pour nous aveugler et nous rendre esclaves de la peur. Il est vrai que les hommes et les femmes préfèrent rendre un culte à quelque chose qu'ils peuvent voir et toucher, alors que le seul vrai Dieu est invisible.
Didier, nous avons dit lors de nos émissions précédentes que les commandements de Dieu sont bons et qui touchent à notre bien-être. En quoi cela est-il vrai pour les deux premiers commandements ?
Dieu désire vivre en communion avec son peuple. Il désire vivre avec lui une relation d'amour et de confiance. Cependant, on peut dire que cette relation avec Dieu doit être exclusive. Elle exige la fidélité du peuple de Dieu. Prenons pour exemple celui du mariage. Il s'agit d'une relation privilégiée entre un homme et une femme. Nous savons que si l'un ou l'autre devient infidèle en vivant une relation intime avec une autre femme ou un autre homme, les relations au sein du couple vont être troublées, au risque de détruire le mariage. Il en est de même pour le croyant qui se tourne vers l'idolâtrie. Il se montre infidèle à Dieu. Cela revient à un adultère spirituel qui détruit notre communion avec le seul vrai Dieu, car il met en danger notre relation d'amour avec lui. Ainsi donc, ces deux commandements ont pour rôle de protéger notre bien le plus précieux, c'est-à-dire notre relation et notre communion avec Dieu. De plus, ces deux commandements sont bons parce qu'ils ont pour but de nous protéger du mal qui résulte de la pratique de l'idolâtrie. L'idolâtrie plonge les gens dans le mensonge et les rend aveugles aux vérités divines. L'idolâtrie tient les gens dans la peur et l'angoisse. Elle peut aussi asservir les gens à des pratiques occultes, telles que la divination et la sorcellerie, qui toutes deux répandent le malheur chez les uns et les autres.
Merci Didier. Comment voulez-vous conclure notre discussion ?
Notre plus grand bien, c'est de nous tourner vers le seul vrai Dieu et de demeurer en communion avec lui. C'est de lui être fidèle et de jouir de cette relation privilégiée avec lui, le Créateur et le Sauveur. La pratique de l'idolâtrie est grave, car elle nous prive de cette relation privilégiée avec le seul vrai Dieu. Le croyant qui se tourne vers les idoles s'éloigne de Dieu. Sa communion avec lui en est troublée, et s'il persévère dans le péché, elle finira par être brisée. Ces deux premiers commandements sont comme des panneaux de signalisation qui nous avertissent d'un danger sur la route. Ou bien, prenons une deuxième illustration. Par ces deux commandements, Dieu est comme une bonne mère qui avertit ses enfants. Ne mets pas ta main près du feu. L'idolâtrie est dangereuse et Dieu veut nous mettre en garde.
Merci Didier. À présent, Claude nous rejoint. Il va nous apporter la perspective du Nouveau Testament concernant ces deux premiers commandements. Claude, bonjour.
Bonjour à tous. L'idolâtrie était très répandue parmi tous les peuples à l'époque où Jésus est venu sur la terre, à la seule exception du pays d'Israël. Ce peuple avait bien retenu qu'il n'y avait qu'un seul vrai Dieu. Lorsque les premiers chrétiens ont apporté la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux nations, ils ont dû dénoncer l'idolâtrie et appeler les gens à mettre leur confiance en Jésus-Christ seul. Le Nouveau Testament parle beaucoup de l'idolâtrie. Aujourd'hui, je vais me pencher sur un seul texte. Ce sont des paroles de Jésus qui se trouvent dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 19 et 20 et 24.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Personne ne peut servir deux maîtres, car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent.
Dans ce texte, Jésus nous aide à mieux comprendre la notion d'idolâtrie. Il affirme que nous ne pouvons pas servir deux maîtres, et il prend pour exemple celui des richesses. En fait, Jésus cite le nom d'une idole qui représentait l'abondance en biens matériels ou en argent. La leçon à retenir est celle-ci. L'idolâtrie n'est pas seulement le fait de se courber devant une idole sculptée ou de craindre un esprit, mais c'est s'adonner de manière excessive à la poursuite d'un idéal ou encore vénérer une personne au point de négliger notre adoration à Dieu et de nous éloigner de lui. Nous servons ce que nous aimons le plus. Nous donnons notre temps et notre énergie à la poursuite de ce que nous désirons le plus ardemment. Que désirez-vous le plus dans la vie? Dieu ou un autre? Ou autre chose? Selon Jésus, la poursuite excessive de possessions telles que les richesses revient à de l'idolâtrie. Lorsque nous désirons par exemple des richesses plus que nous aimons Dieu, cette attitude revient à de l'idolâtrie. Lorsque nous mettons notre confiance et notre espoir dans les biens que nous accumulons, au lieu de mettre notre confiance et notre espoir en Dieu, c'est de l'idolâtrie. Lorsque nous cherchons à devenir riches en pratiquant la justice, le mensonge et la corruption, au lieu de craindre Dieu et d'obéir à sa loi, c'est de l'idolâtrie. Lorsque notre cœur est préoccupé par le désir d'argent, nous tombons dans l'idolâtrie. Cependant, cette poursuite idolâtre des richesses n'est qu'un exemple parmi d'autres. La poursuite de relations illicites pour assouvir nos désirs sexuels revient aussi de l'idolâtrie. La poursuite de positions d'influence dans le but d'exercer un pouvoir sur les gens peut aussi devenir idolâtre. Selon Jean Calvin, un théologien du XVIe siècle, le cœur humain est une véritable fabrique d'idoles. Par cela, il voulait dire que notre cœur se détourne si facilement de Dieu pour ensuite adorer, désirer et poursuivre autre chose. Nous avons des désirs et certains d'entre eux sont légitimes et bons. C'est lorsque ces désirs prennent de l'ampleur et deviennent une obsession qu'ils nous asservissent que nous pouvons parler d'idolâtrie. Nous pensons que ces idoles nous offrent un trésor, mais elles sont trompeuses et nous finirons par être déçus. Comme le rappelle Jésus, notre véritable trésor, c'est lui. Il est notre bien le plus précieux, dès maintenant et pour l'éternité.
Merci Claude pour ce complément d'enseignement important qui nous éclaire sur la nature de l'idolâtrie. Nos invités seront de retour la prochaine fois et nous aborderons le troisième commandement. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.